ce matin, je vais vous présenter une personne tout à fait charmante. Elle s'appelle Marie-Pierre Preud'homme. Bonjour la Belgique.
Bonjour, bonjour.
Alors, comment allez-vous ?
Je vais très bien, merci. Heureuse d'être en ligne avec vous, Marie-Josée. Merci pour cette invitation.
Je vous en prie. Alors, dites-nous un peu, du côté de la Belgique, est-ce que vous avez de la neige en ce moment ?
Ah non, nous aimerions vraiment en avoir pour Noël, mais là, je n'ose plus trop y croire. Il fait relativement doux, aux alentours de 12 degrés.
Ah, bon, alors écoutez, on ne sait jamais, peut-être que le Père Noël va vous exaucer.
Voilà.
Alors, nous allons donc parler d'hypnose ce matin. Évidemment, les auditeurs ont déjà entendu parler d'hypnose. Quelles sont les différentes techniques d'hypnose ? On va en parler avec vous. Ce serait pas mal de faire un peu votre parcours déjà, Marie-Pierre Preud'homme.
Voilà. Alors, mon parcours, Marie-Josée, en fait, pour être tout à fait transparente par rapport à ça, moi, j'ai découvert l'hypnose, l'hypnothérapie, donc l'utilisation de l'hypnose à des fins thérapeutiques, tout d'abord personnellement. Donc j'ai eu de graves problèmes au niveau de troubles alimentaires qui ont duré pendant plus de 20 ans. Et j'ai essayé mathémathérapie, tentative de solution, et j'ai croisé l'hypnose en tout dernier recours, où j'étais relativement loin dans le processus de la pathologie du trouble alimentaire. Et je peux dire que l'hypnose m'a sauvé la vie. Je ne vois pas comment le formuler autrement. Donc ça a été la première rencontre. Et je me suis vraiment fortement interrogée et j'ai été interpellée par la puissance de l'outil qui m'avait aidée à ce point. Et donc je me suis tout d'abord informée et puis formée. Et voilà, et formée, puis j'en ai fait mon métier et actuellement je forme des futurs hypnothérapeutes également.
Alors donc, cette découverte avec l'hypnose s'est faite il y a plus de 20 ans déjà. Les circonstances et surtout cela n'a pas été tout de suite la révélation. Parlez-nous de l'hypnose positive, puisque ça a l'air de vous avoir changé, d'avoir changé votre vie. Qu'est-ce et surtout, est-elle à la portée de chacun, cette hypnose positive ?
Donc, en fait, oui, on peut parler d'une auto-hypnose positive.
Oui.
On peut, pour mon sens, toujours nommer l'hypnose précédée avec ce préfixe « auto », puisque l'hypnose, c'est un état naturel que nous générons. Donc, nous avons des états de veille, des états de sommeil et des états de type hypnotique. Ça fait vraiment partie de nous. Et donc, la particularité de cet état de type hypnotique, c'est qu'il nous met en connexion avec l'inconscient, ou en tout cas, tout au moins, qui rend cet inconscient très très réceptif. Et donc, il y a des auto-hypnoses de type positive, on va dire qu'il s'agit d'un auto-conditionnement qui va amener à un comportement ou à un ressenti positif. Des auto-hypnoses de type négative, ce sera par exemple le cas d'un trouble alimentaire ou même d'un trouble obsessionnel compulsif. Donc là, il y a un auto-conditionnement involontaire, bien sûr, de la personne qui se met en place et qui fait que, au bout, il y a un comportement qui dessert la personne ou qui l'amène dans un mal-être. Mmh. Et à côté de ça, il y a des auto-hypnoses de type neutre, qui sont celles que nous vivons classiquement lorsque nous nous réveillons, où on est un petit peu entre la veille et le sommeil, ou lorsque nous effectuons des longs voyages en voiture, par exemple, où on a cette sensation que l'esprit décroche un petit peu, d'être là sans vraiment y être.
Donc l'auto-hypnose négative, donc, on la génère soi-même, donc ça peut être, j'imagine, au-delà de notre volonté, et ça nous maintient donc dans des comportements négatifs, voire autodestructeurs quelquefois.
Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Donc c'est une sorte d'auto-conditionnement. C'est un peu comme si on empruntait toujours le même chemin, la même voie comportementale et la même voie au niveau des pensées. Et systématiquement, on se retrouve, là, on aboutit avec des pensées qui sont désagréables, comme des pensées récurrentes négatives, ou un comportement. Un peu comme si le comportement se faisait malgré nous, un peu comme si le comportement nous échappait. C'est au-delà de notre volonté.
D'accord. Alors, tout ce qui est dépendance et phobie, ça fait aussi partie de l'auto-hypnose négative.
Oui, tout à fait, tout à fait. On peut le mettre dans ce, les classer dans ce registre-là. Donc la personne qui souffre de peur, quelle que soit la gradation, que ce soit une appréhension, que ce soit jusqu'à une phobie, qui est une peur irraisonnée, il y a une sorte d'auto-conditionnement qui fait que à chaque fois que la personne voit, si on parle classiquement d'une peur, d'une phobie des araignées, à chaque fois qu'il y a une évocation ou que la personne voit quelque chose qui est une araignée ou qui y fait penser, il y a vraiment toujours la même stimulation et le même chemin qui est emprunté. Les mêmes informations sont sélectionnées et mènent la personne dans un état excessivement désagréable de peur et de phobie.
Alors, je vous sais, Marie-Pierre Preud'homme, souvent sollicitée par les médias, notamment la radio. Alors, comment présentez-vous l'hypnose et est-ce que les auditeurs peuvent se manifester lorsque vous êtes en radio du côté de la Belgique?
Est-ce qu'ils peuvent se manifester, vous voulez dire
En appelant, oui, c'est ça. Et quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent?
Alors, les questions qui reviennent le plus souvent, c'est en termes des applications de l'hypnose. On se demande, tiens, est-ce que ça va pouvoir être applicable pour telle et telle thématique? Ça, c'est une question qui revient assez fréquemment.
D'accord. Alors, donc, c'est vrai que souvent, on a besoin d'aide, hein, ne serait-ce que pour gagner une confiance en soi. Quoi d'autre? Atteindre des objectifs. Vous parliez de troubles alimentaires. Donc, ça fait partie aussi de toutes ces pathologies. Sortir de la boulimie aussi. Est-ce que l'hypnose aide vraiment dans ces cas-là?
Oui, tout à fait. Vraiment. Oui, c'est vraiment très, très efficace puisque le comportement alimentaire, il est régi par l'inconscient. Et comme en hypnose, nous travaillons au niveau de cet inconscient, on va pouvoir lui amener d'autres informations, l'aider à s'ouvrir à d'autres champs du possible et l'aider à mettre en place de nouveaux comportements, une nouvelle relation à la nourriture.
Donc concernant la gestion des émotions, ça se gère mieux après. Les problèmes de stress, de troubles de sommeil, tout ça, ça peut se faire.
Oui, tout ça peut se faire, mais néanmoins, je veux quand même mettre une petite réserve. Il ne faut pas entendre l'hypnose comme étant la panacée, comme étant vraiment la recette miracle et le coup de baguette magique. Donc, nous avons un champ d'action qui est relativement vaste, puisque nous travaillons au niveau de la sollicitation des ressources et au niveau de l'inconscient. Néanmoins, il y a quand même des terrains physiologiques, des terrains biochimiques qui vont prédisposer à certains troubles. Et donc, en toute logique, d'abord, investiguons ces terrains purement physiques qui sont de l'ordre vraiment du fonctionnement du corps. Hein. Si on prend par exemple la douleur, on ne va pas en premier lieu travailler en hypnose lorsqu'on a un problème de douleur, mais plutôt investiguer à quoi correspond le signal de la douleur.
D'accord. On va continuer de discuter avec vous depuis la Belgique après cette chanson. C'est une chanson de Noël parce que évidemment sur notre antenne nous avons beaucoup beaucoup de chansons de Noël puisque nous sommes à quelques jours de Noël. Donc on va laisser partir le vent de Noël avec un groupe de chez nous qui s'appelle Trionix et on vous rejoint dans quelques minutes Marie-Pierre Preud'homme en direct de la Belgique. À tout de suite.
Merci.
Orgueilleux et jalouse, gardez les beaux termes et les mâches collées. Pour tous ces corps bronzés d'un âge candi maudit, et dans les cœurs brûlés, oh dies la valise. Tu es écrit de joie sans rien savoir pourquoi. Noël des croquants, Noël des jouvencelles, et souffle le vent de Noël, et souffle l'esprit, pour que Noël soit une fête pour les mal nourris. Pour les femmes mes époux au front ou sur quelques frontières. L'espace de quelques heures unies, c'est leur prière pour que sèche la terre de cette nuit de guerre. Tu es toujours de foi dans la vie du soldat, Noël des pauvres de la foi, Noël du lever. Et soufflez le vent de Noël, et soufflez l'esprit à l'homme votre âme à son vie, Noël. Pour ses petits enfants, devait un beau jour revenir nos parents. Tu étais une orange, un paquet de bonbons, et l'amour si profond de gens simples et bons. Oui, tu fus je de loi et nous vivions pour toi. Noël des pauvres gens, Noël d'une vie belle. Et soufflez le vent de Noël, et soufflez l'esprit, pour que Noël soit une fête dans tous les logis. De bois. Le marin bientôt vers les siens reviendra. Parents et amis se retrouvent déjà autour du gâteau fait il y a un mois. Et tu es peu de moi pour qui bien te reçoit. Noël sur nos bateaux, Noël dans l'archipel. Et souffle le vent de Noël, souffle ce vent qui gonfle les voiles des goélettes des gens d'ici. Souffle le vent de la mémoire, et souffle le vent de l'espoir, et que vive Noël ce soir, et que vive Noël ce soir.
L'enfant, c'est de croire qu'avec le sapin de Noël et trois flocons de neige, toute la terre est changée.
Voilà, c'était Jessie apparemment. Alors, nous aurons cette semaine deux interventions avec la Belgique. Le 25 décembre, on aura une carte postale pour nous décrire l'ambiance de Noël. L'invité sera Lionel Duplessis qui nous avait parlé d'un projet il y a deux semaines, offrir un Noël magique à l'hôpital avec sa société Good For You avec le chiffre 4 au milieu. Et d'ailleurs, nous devrions être en direct avec l'un des hôpitaux qui a eu des jouets pour Noël le 25 décembre. Et nous devrions être avec un des hôpitaux hôpitaux du côté de Bordeaux. Ce matin, nous sommes avec Marie-Pierre Preud'homme, hypnothérapeute, maître en PNL, systémicienne, formatrice. Elle propose également des consultations en hypnothérapie individuelle et en couple. Elle fait aussi de la thérapie familiale. Elle fait du coaching. Elle supervise les professionnels de la santé. Elle propose des formations individuelles pour l'intégration de l'outil hypnose dans les professions de psychologue et de médecin, mais d'infirmier. Enfin bref, vous faites beaucoup de choses. Merci beaucoup de nous accorder de votre temps. Je sais qu'il est très précieux, Marie-Pierre.
C'est vrai, merci, mais c'est un plaisir d'être là avec vous et d'être outre-Atlantique. J'en suis vraiment heureuse.
Une auditrice m'a demandé, en sachant que vous interviendrez ce matin, si l'hypnose pouvait aider dans un sevrage pour le tabac.
Oui, tout à fait. Moi, personnellement, dans ma façon d'accompagner les personnes qui ont cette motivation et cette envie vitale de se libérer du tabac, la nicotine est une drogue dure. Hein, donc, en fait, l'hypnose va être d'une aide très, très précieuse dans la façon d'aborder le sevrage tabac. Moi, je travaille sur deux volets. Le premier est l'hypnothérapie, où on va travailler le niveau inconscient avec les séances d'hypnose et une approche parallèle au niveau conscient qui est faite de techniques comportementales. Donc des techniques comportementales, là ce sont des actions qui sont purement conscientes où la personne va être invitée à assouplir ses habitudes et puis à laisser de côté toutes les habitudes qui ont trait au tabac. Et la conjonction des deux, cette action au niveau du conscient et de l'inconscient, est très très puissante et aide les personnes à se libérer en douceur du tabac.
D'accord. Alors, quelquefois, on ressent de la violence en nous. Certains, d'ailleurs, malheureusement, l'expriment. Est-ce que l'hypnose peut s'avérer efficace dans ce cas-là?
Oui, très très efficace. On va travailler sur tout ce qui est colère, émotions négatives. J'ai pu accompagner des personnes qui avaient des problématiques de ce type-là, entre autres de l'agressivité au volant, de l'agressivité sur la route, qui les dépassaient complètement, des comportements dont ils avaient honte, on peut le dire, et qui ne géraient absolument pas. Et par l'hypnose, eh bien, on peut vraiment désamorcer ces comportements, retourner à la racine, à ce qui génère ça, ce qui a d'étrange, enfin qui est peut-être un petit peu difficile à comprendre, c'est qu'on ne va pas nécessairement avoir une compréhension consciente de l'origine du problème, mais on va quand même remonter à cette origine du problème et travailler à la racine. C'est un petit peu comme du Roundup ou les produits de traitement sélectifs pour désherber. Il va y avoir une sélectivité, on va remonter à la racine, mais on ne va pas nécessairement prendre conscience de cette racine, de quoi elle est composée. Mais néanmoins, on a une action dessus. Et le résultat va être des modifications comportementales et une meilleure gestion des émotions.
Alors, on a beaucoup de préjugés sur l'hypnose. Hein. On s'imagine quelquefois que si on fait appel à un hypnotiseur, on va être sous l'emprise de la personne qui le pratique. Vous avez dû déjà entendre ça, j'imagine.
Oui, tout à fait. Alors, juste pour nuancer un petit peu au niveau des termes, on va nommer hypnotiseur la personne qui fait des spectacles en utilisant l'hypnose, et hypnothérapeute la personne qui utilise l'hypnose à des fins thérapeutiques. Alors, l'hypnose, c'est exactement l'opposé qu'une prise de contrôle de l'autre sur soi. Le travail en hypnose, c'est un travail qui, justement, aide à reprendre le contrôle sur soi. Quand on démarche quand on démarche un thérapeute, une thérapeute, en fait, la demande pourrait être traduite par « aidez-moi à mettre en place ce qu'il faut pour retrouver un comportement qui me convient. » Donc, aidez-moi à reprendre quelque part le contrôle, entre guillemets, pour atteindre mon objectif. Donc, c'est un accompagnement pour aider la personne à reprendre, je le remets entre guillemets, le contrôle pour atteindre son objectif. Donc il n'y a pas de prise de pouvoir de la personne qui accompagne, mais un accompagnement qui a une visée d'atteinte d'objectifs qui a été choisi par la personne et validé ou non par le thérapeute.
Est-ce qu'on peut appeler ça de l'hypnose ericksonienne, par exemple?
Voilà, donc moi je travaille en hypnose ericksonienne et nouvelle hypnose. Donc Milton Erickson, qui était un psychiatre américain et qui souffrait lui-même, entre autres, de polio et qui avait d'autres troubles, qui a beaucoup souffert, a utilisé l'auto-hypnose sur lui et a dépassé toute cette souffrance grâce à l'hypnose. Et il a utilisé pour ses patients l'hypnose, une hypnose qui était un renouveau. Avant lui, l'hypnose était beaucoup plus directive et ressemblait davantage à ce qu'on voit dans le spectacle.
Alors, vous donnez des formations, Marie-Pierre Preud'homme. Vous en suivez aussi d'ailleurs parce que il faut toujours se remettre en question et apprendre. Vous vous exprimez souvent sur votre métier. Est-ce un métier qui donne envie aux jeunes?
Il donne assez envie. Moi, j'ai quand même assez bien de personnes qui suivent les formations que je donne, que ce soit des personnes qui soient issues du monde médical ou des personnes qui ne sont pas issues du monde médical. Donc, il y a à la base des représentations de l'hypnose qui ne sont pas toujours vraiment la réalité du métier, qui effectivement vont booster les jeunes et donner envie de se lancer dans cette profession. Et puis ils approchent un petit peu le métier, ils voient de quoi il leur tourne, ils voient qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont à étudier si on veut exercer correctement et avec déontologie. Et donc voilà, beaucoup d'appelés, si on peut dire, quand même beaucoup moins d'élus, ça fait des émules. Il y a aussi toute l'attractivité de l'hypnose de spectacle et parfois de la confusion dans le type de métier.
Alors, quel projet avez-vous pour l'avenir? 2016 arrive tout vite.
Alors, mes projets, d'abord, Marie, c'est réussir mes examens, puisque là, je suis en session d'examen, j'ai repris des études en psychologie du travail, je suis en deuxième année, donc ça, c'est mon objectif, réussir les examens de cette session. Et autrement, les autres, c'est amener du neuf dans mon école d'hypnose et toujours continuer dans cet accompagnement et acquérir des outils pour pouvoir être davantage utile aux personnes que j'accompagne.
D'accord. Alors, cette école d'hypnose, elle se trouve où et où vous rencontrez, s'il en a donné envie, à des auditeurs pour en savoir plus et peut-être vous voir?
Voilà. Alors, il y a deux sites internet principaux. Le premier qui est www.hypnose-liège, donc trait-d'union-liège.com, qui reprend un petit peu les activités, les différentes applications. On retrouve aussi des méthodes qui sont à télécharger pour que les personnes puissent travailler de chez elles. On retrouve aussi ces méthodes sur un site qui s'appelle Hypnopulse. Donc hypno comme hypnose et puis pulse, hypnopulse.com. Et un autre site qui est relatif aux formations en hypnose qui est Formatera. Donc format comme formation et terra comme thérapeute, formatera.be. Voilà, ce sont les trois pistes. Peut-être aussi ce qui pourrait être intéressant sur la page Facebook hypnoseliège.com, pour les personnes qui en sont fans, il y a une séance d'hypnose sur le lâcher prise qui est mise à disposition et qui est offerte, que les personnes peuvent télécharger.
D'accord. Eh ben, écoutez, merci pour toutes ces explications. Très belle fête de fin d'année.
Je vous remercie. J'ai vraiment été très très heureuse de partager ce moment avec vous et avec les auditeurs. Un vrai plaisir.
Merci. Alors cet entretien ainsi que tout ce fait dans cette émission sont disponibles sur le site saintpierremiquelon.lapremière.fr et vous cliquez sur les titres des émissions que vous souhaitez réécouter et notamment l'entretien pour ce matin sur l'émission qui s'appelle Brume de Caplan. Merci encore une fois Marie-Pierre Prédhomme et très joyeux Noël.
Merci beaucoup Marie-Josée, de très joyeuses fêtes à vous, à tout bientôt.
Merci, au revoir, à très vite.
Au revoir.
Au revoir.